lire l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, lire jusqu'au verset 20 inclus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bientôt ou pas? On ne sait pas. Mais il y a bien des choses qui se précipitent. Hein? En tout cas, l'enseignement des apôtres était considéré dans les églises du 1er siècle comme l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il leur avait confié tout simplement, eh bien, il leur avait donné le devoir d'enseigner le peuple. Et je crois qu'il doit toujours en être ainsi aujourd'hui, hein, selon la parole même du Seigneur. En effet, Jésus avait dit aux disciples, lorsqu'il était encore avec eux, dans Jean chapitre 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, dès le début, ceux qui ont entendu la prédication et l'enseignement des apôtres ont accepté cette parole comme venant du Seigneur, hein, comme nous le montre également le livre des Actes, Actes 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Amen. Un grand baptistère, mais ça ne fait rien. Hein. On trouverait le moyen quand même de le faire. Hein. En tout cas, ces personnes, eh bien, en acceptant la parole, ont obéi. Elles se sont fait baptiser et sont donc devenues des disciples de Christ. Ensuite, il nous est dit, et c'est au verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, l'enseignement des apôtres et de Christ, également eh bien, les prophètes qui ont parlé également, eh bien, s'est présenté comme le solide fondement qui est le garant de la solidité de notre foi. Ce n'est pas une parole qui va s'en aller, qui va disparaître. Jésus, c'est la parole faite chair. C'est le Verbe de Dieu incarné. Donc, cette parole est vivante. Amen. Elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, etc. Vous connaissez ces textes. En tout cas, c'est l'apôtre Paul qui dit dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » En lui, donc en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Il vient habiter en moi. Gloire à Dieu. Pas que chez moi, chez vous aussi. Hein, quand on accepte le Seigneur, quand on obéit à sa parole, quand on suit ses commandements, eh bien, il habite en nous. En tout cas, le passage cité dans Actes 2, 42, eh bien, contient, je dirais, un raccourci, les quatre paliers ou piliers d'une église de véritables disciples de Christ. Il y est question de quoi? Il y est question de l'enseignement des apôtres, il y est question de la communion fraternelle, il y est question de la Sainte Cène, et il y est question, enfin, eh bien, des prières. Et lorsque une assemblée et ses membres persévèrent fidèlement et sincèrement dans ces choses, tout simplement, eh bien, ils vont s'édifier, ils vont grandir sur de solides fondements. Amen. Des fondements solides. Il faut que ta vie, et ma vie, notre vie ensemble, eh bien, soit bâtie sur ces fondements. Ils ne seront pas, eh bien, tout simplement fragilisés. Au contraire, ils vont être solides et je vais être solide et ma foi va être bien étayée. Alors, bien sûr, chacun de ces éléments demande d'être développé. On ne le fera pas ce soir. Et je vais me cantonner, comme je l'ai dit, à l'enseignement des apôtres. Amen. Parce que, bien sûr, il aurait fallu prendre le temps, mais bon, on est un petit peu limité dans le temps parce qu'il nous faut prier. Et j'ai de nombreux sujets de prière qui m'ont été donnés. Alors, parlons de l'enseignement des apôtres. Je remarque que la foi de nombreuses personnes est quelquefois fondée sur, je dirais, sur des sentiments, des émotions. On est des gens avec des sentiments, on a des émotions, bien sûr. Hein. Alors, d'autres, c'est sur des expériences. Et tout est basé là-dessus. Alors, sur ce que nous pouvons ressentir ou que nous n'allons pas sentir ou ressentir. Hein, d'où la fragilité de certaines personnes, de certaines fois. Et bien sûr. Souvent ballottés au gré des vents et des circonstances, ou alors des discours divers. Celui-ci a raison. Ah non, celui-ci, c'est lui qui a raison. Ah non, il y en a encore un qui parle derrière. Ah oui, j'écoute. Et il a raison. Et non, c'est pas ça du tout. Qui a raison dans l'affaire? Et à qui nous devons faire confiance? Sinon au Seigneur. Et c'est là qu'il nous a laissé justement sa parole. Parce que les enseignements de Jésus et des apôtres, je dirais qu'il s'adresse en priorité à notre faculté de réflexion et de décision. Hein. Mais il faut qu'il y ait aussi, eh bien, quelque part, l'expérience. Hein, il y a bien sûr, il y a ensuite des expériences, des émotions, il y a des sentiments qui sont sollicités, c'est normal. Somme de chair, pensez-vous. Eh oui, mais nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le mysticisme, qu'il soit individuel ou collectif. Hein. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a la prédication de l'apôtre Pierre. Des milliers de personnes ont cru, ont été baptisées d'eau, conformément à l'ordre et à l'enseignement de Jésus. Hein. Ensuite, les apôtres les ont instruits de la manière dont ils devaient vivre leur vie de disciples de Christ. Parce que quand on devient chrétien, on réapprend à vivre. On réapprend quelles sont les priorités et quelles n'en sont pas. Donc, vous voyez, on réajuste certaines choses dans notre vie. En lisant le livre des Actes, des Apôtres et des Épîtres, on remarque tout simplement qu'il y en a toujours été ainsi, quelque part. L'enseignement des apôtres de Christ, que ce soit les 12 ou plus tard, eh bien, l'apôtre Paul qui s'est rajouté, eh bien, était considéré comme, je dirais, les dépositaires des enseignements du Seigneur. Et ils devaient transmettre fidèlement la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. Les apôtres eux-mêmes ont été à l'écoute de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont appris auprès du maître. Ils étaient à ses pieds pendant 3 ans et demi. Ils ont vu donc ses œuvres, ils ont entendu et reçu ses paroles. Ils ont contemplé sa vie, sa façon de vivre, son autorité. Ils ont vu tout cela. Ensuite, eh bien, les voilà chargés, eux, de transmettre tout simplement eh bien, à ceux qui allaient croire l'enseignement, tout ce qu'ils avaient entendu, tout ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient vu faire auprès de Jésus. Écoutez un petit peu comment Jean en parle dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 1er verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Donc, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont appelés à devenir disciples. Et les vrais disciples, eh bien, ce sont ceux qui écoutent, qui mettent en pratique ces enseignements. Amen. C'est pas compliqué, c'est le béaba. Hein? J'ai confiance en lui, comme je ne sais plus ce qu'il disait, je ne sais pas si c'est Marcelin ou Emmanuel dimanche dernier. Est-ce qu'on va avoir confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Je t'écoute, je t'entends, mais il me faut des preuves. Et Jésus a laissé des preuves. C'est sa parole. Mais sa parole, nous le savons, quand quelque part nous sommes dans le besoin, il nous donne un texte de l'Écriture qui va jaillir, qui va quelque part nous parvenir jusqu'à notre conscience, mais à notre cœur aussi, nous sommes touchés. Et nous voilà rassurés. Amen. Ou alors nous voilà avertis. Combien de fois j'ai été averti de certaines choses qui allaient se produire? C'est dingue, mais c'est comme ça. Hein. Et Dieu sait comment nous avertir et nous parler. Et quand on est averti, eh bien, mes amis, on s'y prépare. On se prépare, même si au début, la première fois, j'étais vraiment surpris. Eh bien, ensuite, j'ai compris, j'ai dit ça vient de Dieu. J'ai appris à discerner sa voix. Donc, son conseil, quand il me disait, fais attention, il va se passer ça et ça. C'était clair, ça et ça. C'est exactement ce qui s'est passé la première fois, surprise. Oula. Mais pourtant, il m'avait dit, c'était lui donc. Et après, j'ai appris à reconnaître. Et c'est bien quand on est averti. Hein, c'est bien mieux. On sait où on va. On sait ce qui se passe. Et on dit, ah ah, le Seigneur, il sait déjà. Donc, il est avec moi. Amen. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire qu'elle vous rendra libre. Amen. La vérité de la parole de Dieu, eh bien, pour nous qui écoutons et qui devons l'écouter, la mettre en pratique, eh bien, elle va être pour nous quelque part, allez, une arme formidable. Amen. La parole de Dieu qui nous rend libre. Que sont les enseignements de Christ? Eh bien, c'est sa parole qu'il a confiée à des témoins choisis pour cette mission. Ils doivent transmettre ce qu'ils ont reçu de lui. Amen. Quand je dis transmettre, c'est transmettre fidèlement. Pas un peu amélioré. Non, il n'a pas besoin d'amélioration, la parole de Dieu. C'est fidèlement ce qu'il l'a confié à ses disciples, à ses serviteurs. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une transmission orale, naturelle, comme il était de coutume de le faire en ce temps-là, mais d'une compréhension et d'un enseignement donné par le Saint-Esprit, selon les paroles même du Seigneur, hein, rapportées dans Luc et dans Jean, je vais vous les citer, Luc chapitre 24, verset 44, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit est associé au plan de salut. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et pour nous faire comprendre eh bien, ce que l'enseignement du Seigneur, ce que le Père a laissé au Fils, ce que le Fils eh bien, nous transmet, il y a le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence, qui renouvelle l'intelligence, qui nous fait comprendre. C'est là que j'ai vu la différence. Quand on est converti, quand le Saint-Esprit habite en nous, quand Dieu habite en nous, et quand on n'est pas converti, que, eh bien, on peut lire la parole de Dieu, mais ne pas la comprendre. Parce que j'ai été surpris. Quand mes collègues de travail, parmi eux, il y en a un qui m'a dit, « Moi, tu sais, je lis la Bible. » Tu lis la Bible? Super, quoi. Mais, en fin de compte, j'étais sur la retenue parce que je dis, « Il lit la Bible, mais les propos qu'il tient, le témoignage qu'il laisse, c'est pas du tout un témoignage chrétien. Hein » Un jour, il m'a demandé, « Tu peux pas nous sortir une prière de derrière les fagots pour qu'il arrive des bricoles au patron ?» J'ai dit, c'est pas possible, il n'est pas chrétien. Bon, il n'était pas chrétien, hein, bien sûr. Hein. Mais voyez, on peut lire la Bible, mais s'il n'y a pas le renouvellement de l'esprit en nous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous éclaire, hein, qui nous donne l'intelligence, la compréhension des choses spirituelles, on passe à côté. On ne reçoit pas, on ne vit pas les choses de l'esprit. Également, Jean chapitre 14, verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Non seulement il va nous ouvrir l'intelligence pour comprendre ce qu'il y a sur le moment, mais ensuite il est capable de nous ramener à notre esprit, à notre mémoire, eh bien une parole, un texte de l'Écriture, quelque chose, un commandement du Seigneur pour nous aider justement à sortir peut-être eh bien, aller d'un chemin sans issue, je ne sais pas, mais d'une situation difficile. Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alléluia ! Eh oui ! Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia ! Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés orphelins. Vous ne croyez pas ? Troisième personne de la Trinité de Dieu. Alors nous marquons la place du Saint-Esprit dans la transmission des enseignements de Jésus à ses disciples. Et aussi eh bien, dans leur propre ministère d'apôtres choisis pour cette mission. Eux aussi avaient besoin d'être équipés. Ils avaient besoin d'être habités par l'Esprit de Dieu. Amen. Luc, l'auteur du livre des Actes et également de l'Évangile qui porte son nom, va dire ceci dans Actes chapitre 1er, verset 1er. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Et Pierre rajoute ceci, 1 Pierre chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Il leur a été révélé. Voyez, l'Esprit de Dieu nous révèle. Il nous révèle quoi? Eh bien, la volonté de Dieu. Il nous révèle quoi? L'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Dieu. La parole de Dieu. La doctrine de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, lui aussi, souligne qu'il a été lui-même appelé directement par Christ pour enseigner l'Église. Galates chapitre 11, chapitre 1, verset 11. « Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Amen. Paul, qui était un homme assez terre-à-terre, vous savez qu'il avait été investi d'une autorité par les grands du Sanhédrin et qu'il allait avec des lettres de recommandation. Oui, c'était ça sa marque à lui. Jusqu'à ceux qui soient terrassés, qui soient plaqués au sol, qui deviennent aveugles, qui soient dépendants de deux gars qui l'amènent jusqu'à Damas. Et que là, eh bien, chez Corneille, eh bien, c'est Corneille, c'est ça? Non, c'est... Je ne me rappelle plus de son nom. Ananias, voilà. Qui lui prie pour lui, parce que le Seigneur lui a demandé. Et lui, oui, Ananias, c'est ça. Il avait la peur, quelque part, que Paul ne redevienne ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu de lui, c'est-à-dire un persécuteur. Donc, il était sur la réserve. Mais Seigneur, tu sais ce qu'il a fait à ton peuple là-bas, hein, à Jérusalem, aux alentours. Et le Seigneur lui a dit, je l'ai choisi. C'est mon instrument. Amen. Et c'est là qu'il va donc trouver, justement, retrouver la vue. Les écailles ont tombé de ses yeux, etc. Mais c'est par une révélation. Alléluia. Pour nous aujourd'hui, le plus important, c'est de demeurer dans sa parole. Amen. Le Seigneur Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Vous voyez, c'est le plus important, c'est ce qui transparaît de tous ces textes. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ma parole que vous devez accepter. C'est par ma parole que vous devez apprendre à vivre, à vous comporter, à répondre, à corriger. C'est ma parole. Amen. Alors, cette parole est encore valable aujourd'hui. Je dirais même qu'elle est de la plus haute importance dans un monde, justement, où tous les points de repère disparaissent. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Si vous arrivez à tromper votre monde, et au-delà, vous êtes quelqu'un de formidable. Trompé, j'ai bien dit, hein ? Eh oui. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas du tout pareil. Il nous faut être droit et honnête. Le monde ne sait plus où il va. Nous avons une lumière, un point de repère. Nous avons un phare, la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi le Seigneur ajoute ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est souligné, c'est dit, c'est redit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. C'est l'enseignement que les apôtres ont reçu. C'est l'Écriture. Amen. Alors, les enseignements de Christ, ces instructions contenues dans les évangiles et dans les épîtres des apôtres, ont trait quelque part à notre vie quotidienne. Il y a ce que nous devons croire, mais également comment nous devons le vivre. Amen. C'est cela l'enseignement des apôtres dans lequel nous devons persévérer. L'enseignement de Jésus est transmis par ses apôtres, consigné dans le Nouveau Testament, est appelé la doctrine de Christ. Vous regarderez 2 Jean, chapitre 1, verset 9, dans laquelle nous devons demeurer sans aller au-delà. Attention, sans aller au-delà de ce qui est écrit. Les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine qui est selon la piété, auquel nous devons nous attacher, c'est cela, c'est la doctrine de Dieu notre Sauveur, que nous devons honorer justement par notre obéissance fidèle. Amen. Il ne demande pas plus que nous soyons fidèles. Une lettre quelque part ouverte et décachetée et lue aux yeux de tous. C'est ce que nous sommes, que nous devons être. On doit pouvoir dire, ah, oh, tiens, il vit à la manière des disciples. Ah, oh, tiens, on croirait voir Jésus. Alléluia. Mais oui, ils doivent ressentir quelque chose. Je ne sais pas si on vous l'a dit ou un jour, mais dans ta présence, je suis bien, je ne sais pas ce qu'il y a, tu es différent des autres. Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas, mais ça me fait envie parce que ce que tu as, j'ai envie de le recevoir. Alléluia. Ça, c'est bien sûr, c'est des opportunités que nous donne le Seigneur pour pouvoir témoigner. Parce qu'à ce moment-là, tout est fait. Voilà, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus. Amen. Vous savez que disciple, c'est le mot élève. Je suis l'élève du grand maître, de Jésus. Amen. Alors, il est demandé à ceux qui transmettent son enseignement d'être fidèles. C'est notre responsabilité, à nos prédicateurs. Nous ne devons rien retrancher ni ajouter. Est-ce que nous attachons à faire avec le plus grand sérieux? Parce que nous souvenons bien que Paul a exhorté également Tite à l'égard de ceux qui devaient prendre le flambeau derrière lui. Il dira ceci, Tite chapitre 1, verset 9, « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les juifs à l'époque, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. » Eh oui, il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Et puis comme le disait Emmanuel dimanche, à celui à qui il a beaucoup été donné, il sera beaucoup redemandé. Alors si quelqu'un aspire à porter la parole de Dieu, à quelque part avoir une position bien plus élevée, réfléchis bien. Parce qu'après, il y a une lourde responsabilité. Je dois être un modèle. Eh oui. Parce que quelque part, on va regarder à moi si je vis correctement ce que j'enseigne. Dans ce que j'enseigne, il faut que je le vive. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais, je ne sais plus quand, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est ici, ou oui, je pense. Vous savez qu'un pasteur ne peut pas avoir de rancune. Alors, on n'a pas une super armure, Attention, dans ton cœur, il n'est pas blindé. Non, non, pas du tout. Il subit quelquefois certaines douleurs. Vous voyez ? Mais ça ne dure pas longtemps parce qu'on se dit, bon, je suis là, mais je vais être là et je vais dire à ceux qui m'entendent, qui m'écoutent, qui sont venus justement pour recevoir la parole de Dieu, il faut pardonner, mon frère, il faut pardonner, ma sœur. Mais si j'ai de la rancœur, vous savez ce qui se passe? Pouf, ça tombe là-devant. Donc, avant de prêcher aux autres, en tant que serviteur de Dieu, Emmanuel, vous le direz aussi pareil, eh bien, on se prêche à soi-même. Et donc, si on a de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, on s'humilie devant Dieu. On voit même la personne, on lui dit pardonne-moi parce que voilà. Ce qui s'est passé, et tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais en tout cas, ça m'a fait du mal. Et on règle ces problèmes-là, ces situations-là. Et puis, quand on vient prêcher la parole de Dieu, on est bien. On est bien, on n'a pas honte, on ne rougit pas. On ne baisse pas les yeux en parlant de... Non, non, on regarde en face, parce que eh bien, c'est comme ça. Amen. Enfin, je conclue par ce texte-là, parce qu'on va prier. Il faut garder un bon moment pour la prière. Paul dira à Timothée, c'est son fils spirituel, vous vous rappelez, de Timothée chapitre 3, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres dans la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Il nous faut marcher dans la vérité. Il faut l'accepter, cette vérité. Amen. Il faut la vivre. Il faut la vivre. Amen. Et quand on la vit, eh bien, mes frères et sœurs, on est bien. Alléluia. On est bien. Oh, on n'est pas exempt d'épreuves, de difficultés. Détrompez-vous, hein, si vous croyez que le pasteur il n'a jamais de problème, jamais de difficultés. Non, non, au contraire. Hein. Paul, quand on regarde un petit peu, il a été laissé pour mort. On l'a lapidé. Il a dû fuir, lui. D'autres également ont vécu des choses terribles. Hein. Mais ce qu'il nous faut garder, c'est le cap. Et pour garder le cap, eh bien, il y a en nous la parole de Dieu qui nous aide à comprendre, à saisir, à vivre tout simplement l'Écriture, l'enseignement du Seigneur, qui est cette force, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Voilà, je fais un peu de ménage et je reviens vers vous. On va prier, on va ensemble demander au Seigneur d'intervenir, d'accorder une visitation, d'accorder une guérison. On va demander au Seigneur, eh bien, peut-être de se servir de nous pour rendre témoignage à quelqu'un. Hein? Et puis, on va, avec confiance, s'attendre au Seigneur. Avant que j'oublie, on prie pour le